Salut à tous, c'est la Miade et la Charte de Temps. Je vais vous parler aujourd'hui de l'interview d'Antoine Thomas que Tumulte et moi on a réalisé au cabaret lors de la première soirée du Festival Artichaut qui se tenait du 22 au 27 septembre à Lyon. Et cette interview on l'a fait à la toute fin de la soirée quand les musiciens avaient posé leurs instruments, que surtout on avait un peu moins de brouhaha pour pouvoir parler. Et Antoine Thomas a bien voulu répondre à nos questions, se présenter, parler de son implication dans le monde du libre, dans le monde du logiciel surtout, mais aussi dans le monde de la musique, comme vous l'entendrez. Et aussi, comment est-ce qu'il en est venu là, comment est-ce qu'il en est venu à s'intéresser au libre, etc. Alors, cette interview, c'est la première qu'on diffuse. Parce que c'est la première dont pour l'instant on a réussi à tirer quelque chose de bon au niveau du son. Je vous promets qu'il y en aura certaines où le son sera sûrement beaucoup plus mauvais que celui-là. Par contre, vous pourrez vous rendre compte un petit peu de l'ambiance du cabaret. Cette interview étant d'une traite, il y a aussi des moments où on se fait interrompre, où il y a des moments où il y a des blancs, où vous sentez les hésitations un peu de tumulte dans sa voix par moment, enfin vous verrez. Et c'est brut de pomme, quoi. C'est comme ça qu'on l'a enregistré, c'est comme ça qu'on discutait, et voilà. Donc je vous laisse, bonne écoute.
C'est trop tentant. Mon cher...
Antoine,
avec deux T.
Exact, T-O-I-N.
C'est ton vrai prénom ?
Antoine, c'est mon vrai prénom.
Je suis
Il y a, je sais pas, genre 10 ans, tu sais, quand c'était les débuts d'Internet en France, j'ai cherché un pseudo que personne n'avait, alors j'ai cherché 10 000 ans, puis un jour j'ai vu que Toine avec deux T, personne ne l'avait. Donc ouais, depuis, à peu près partout, sauf peut-être sur Yahoo, mais bon, encore c'est peut-être moi, mais j'ai dû perdre le login, enfin tu vois, c'est moi. Voilà, que dire d'autre ? Si tu cherches Antoine Thomas, tu tombes sur moi dans Google, donc c'est facile de me trouver. Et comme ça, j'ai pas besoin de donner mon adresse internet directement. Qu'est-ce que vous voulez savoir alors, les gars ?
C'était qui déjà ?
Alors,
t'as un pseudo.
Voilà. En fait, moi, je fais partie des gens qui essayent de faire bouger le cul au monde du libre, parce qu'en fait, il y a.
Il a le pouvoir. Il peut baisser la musique du cabaret. Ça nous arrange tous.
Non, attends, c'est ça. Oui, donc en fait, tu la remonteras, c'est ça ? si tu veux, il y a quelques années en arrière, je me suis vraiment intéressé, j'avais commencé avec Mandrake, Red Hat, jusqu'à la 9, où après c'est devenu pas distribué gratuitement en tout cas. Et puis Fedora, ça pue, enfin à l'époque en tout cas ça puait. Et puis, de fil en aiguille, j'ai laissé tomber Linux pour redécouvrir Ubuntu, monté par notre cher Mark Shuttleworth, qui a inventé la sécurité sur Internet. Et à partir de là, en fait, du coup, mon idée, c'était de faire du multimédia, mais sans avoir à payer les logiciels. L'intérêt étant de dépenser de l'argent en matériel, des bons préamps, des bons compresseurs, mais hardware, et de pouvoir faire les prises de son, le mix, le montage, même faire des scores de films ou des trucs comme ça, qu'avec des logiciels libres, en fait, pour avoir plus de puissance, plus de liberté. Et comme j'ai vu que certaines choses étaient possibles, d'autres pas, en fait, moi, je suis pas du tout un programmeur, mais ma contribution au libre, c'est d'aller choper les gens qui ont les compétences et de leur faire se bouger le cul pour qu'ils fassent des choses utiles. Parce qu'en fait, le vrai problème du développement libre, c'est que les gens font ce dont ils ont besoin pour eux, pour leurs propres besoins très souvent, et ils oublient que ça serait beaucoup plus populaire s'ils faisaient aussi des choses pour que ça serve à tout le monde. Et il y a tellement d'exemples que c'est pas la peine vraiment d'en donner un en particulier. Donc moi, j'ai fait en fait le premier noyau libre en prenant des stagiaires. En fait, à l'époque, j'avais ma propre boîte, donc j'ai pris des stagiaires qui l'été ont fait le premier noyau temps réel pour Ubuntu, et je l'ai mis sur un dépôt qu'on a fait nous, et c'est ce qui m'a valu ensuite d'être invité par Mark Shuttleworth chez Google à l'UDS de novembre 2006. Et puis depuis, en fait, je gravite toujours autour, je fais du bug reporting, de la documentation quand j'ai le temps. J'ai arrêté de m'intéresser au projet Ubuntu studio parce que j'aime pas les gens qui s'en occupent et je préfère continuer dans mon petit coin à faire avancer le schmilblick au fur et à mesure. Donc maintenant je fais des stations de travail sur mesure, je suis des projets musicaux à l'Epita Epitech à Paris, notamment le labo audio où il y a un logiciel très bien, un équivalent de Reason qui s'appelle Wire, et puis un équivalent de, on va dire, d'une TR-808 ou d'une Yamaha RS-7000, mais qui est en développement, une vraie machine hardware basée sous Linux pour faire la production audio. Voilà. Hein ? Ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas, on développe un concurrent. Voilà. Et donc voilà, et puis bah en fait du coup sur Lyon j'essaie de m'intéresser un petit peu à tout ce qui est musique libre et tout ça. Du coup je connais Didier, je connais un peu Aizik, de temps en temps je fais des prises de son comme j'ai fait ce soir pour montrer aux gens qu'on peut enregistrer avec Ardour et une carte de son toute bête et des micros. Et voilà, donc maintenant bah, si t'as des questions par rapport à tout ce que j'ai dit. Et je suis désolé pour le ton de la voix, je suis un peu fatigué.
Il a crié dans un micro il n'y a pas 5 minutes à faire un boum tchakadak boum tchakadak, un truc comme ça. Donc voilà. Merci. Ce mec est tellement sensuel, dommage que vous ne le voyez pas.
J'ai la barbe, la casquette Ubuntu, le t-shirt qui coule de sueur. Bref.
Donc tu t'occupes aussi d'un truc à la faculté de Lyon 2 avec des petits étudiants des cérébrales.
Ouais, alors je sais pas encore si cette année je vais pouvoir malheureusement m'en occuper. Je cherche quelqu'un éventuellement pour me remplacer à cause de mon nouveau boulot. Mais l'année dernière j'ai donné 3 jours de cours à la fac de Lyon. Il faut savoir qu'il y a une formation qui s'appelle communication avec les logiciels libres, dont les fondamentaux, les cours théoriques sont exactement les mêmes en communication, en marketing, etc. que la licence IUP, hein, communication de la fac. Mais l'idée a été de remplacer tous les logiciels payants, notamment ceux d'Adobe par exemple pour ne pas les citer, par que des logiciels libres. Donc on a Gimp pour la photo, Inkscape pour l'illustration, les logos, etc. Et donc moi j'ai donné les cours sur tout ce qui était montage son et récupérer des images d'une caméra, des choses comme ça, faire un petit montage et l'exporter vers YouTube, ce genre de choses là. Sachant que ce qui est très très intéressant, postuler, ils ont besoin que des gens postulent. Là c'est la deuxième année, c'est un test et elle est pas sûre d'être prolongée. Ce qui est très intéressant, c'est que en licence de communication standard, tous les étudiants ont galéré pour trouver des stages et tous ceux qui étaient en communication avec le logiciel libre avaient tous un stage 3 mois avant la limite pour le trouver et ils avaient tous un boulot avant même d'avoir fini leur stage, etc. Parce qu'en fait toutes les SS2I qui sont sur les SS2L donc sont sur le logiciel libre, les médiathèques, les mairies, les petites associations qui n'ont pas les moyens d'acheter les logiciels sont très contents de les avoir parce qu'ils ont les mêmes bases de communication, mais voilà, il n'y a pas besoin d'acheter de logiciel pour pouvoir faire le travail et le rendu elle-même, c'est l'objectif. Voilà, donc super super formation. Contacté à la fac, c'est Vincent Mabillot qui s'en occupe, donc Vincent Mabillot, et voilà, donc allez le voir, postulez, renseignez-vous, etc., etc. Voilà. Donc, comme je disais, je cherche quelqu'un qui puisse faire cette part de cours de montage son sous Linux, parce que malheureusement je suis pas sûr de pouvoir prendre les 3 demi-journées, c'est en novembre, et donc voilà.
Et comment t'en es arrivé à vouloir faire bouger le cul à logiciel libre?
Je sais pas. Tu sais, c'est comme regarde Didier par rapport à Dogmazic. Voilà, on a tous des passions. Moi, je suis musicien, je fais beaucoup de basse, je fais plein d'autres instruments. Tu vois, je m'amuse avec ma bouche, mais je tape sur des trucs, je fais du beatbox. Je joue dans un groupe de rock qui est à moitié libre parce que mon batteur est à la SACEM. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à faire que les gens qui ont envie de s'exprimer puissent le faire sans que ça coûte énormément d'argent, de temps ou quoi que ce soit. Et ce que je trouve bien avec les logiciels libres, c'est qu'il suffit d'un vieux PC que vous récupérez d'une entreprise ou quoi, pour un euro symbolique ou gratuitement, vous mettez Linux dedans. Il y a un petit peu de bidouille, mais on trouve la documentation aisément sur internet, très souvent en anglais, mais très souvent elle est traduite. Et du coup, voilà, à moindre frais, on peut faire énormément de choses. Je repense à Jérémy de Bellinux. Lui, il se bouge le cul sur la région parisienne pour monter un réseau de radio libre, des studios de prise de son pour les musiciens qui veulent enregistrer pas trop cher pour faire des démos, des choses comme ça. Et l'idée, voilà, il est venu me voir, je l'ai formé sur Ardour. Quand les gens viennent me demander, quand j'ai le temps, je le fais. S'ils veulent me payer, c'est avec plaisir. Et mais voilà, pour moi, c'est voilà, c'est un peu une passion. Et en fait, je dirais la plus grosse rémunération m'a déjà été donnée, c'est celle d'avoir été invité chez Google une semaine par Mark Shuttleworth. Voilà. Donc comme il a fait ça pour moi, bah voilà, je lui suis redevable de tellement de temps et d'argent au regard de ce que ça a coûté. Alors que pour moi, j'ai pas la sensation d'avoir fait grand chose.
Mark Shuttleworth,
c'est le patron de Canonical qui a monté Ubuntu.
Un mec qui a pas mal de sous.
Alors historiquement, il était le créateur et le patron de SHAWT, THAWTE. En gros, il a inventé la sécurité sur Internet et après il a revendu ça à des boîtes comme VeriSign ou des trucs comme ça. Et donc le certificat de sécurité sur Internet, le moderne en tout cas, c'est lui quoi. Et c'est comme ça qu'il est devenu riche, qu'il est allé dans la station Mir pour 20 millions de dollars et tout ça. Puis quand il a eu fini de s'emmerder avec son fric, il s'est dit bon, tiens, si on s'est attaqué à une noble tâche. Et donc il a dit bah voilà, le leader mondial c'est Microsoft, c'est payant. Lui il est sud-africain d'origine, même si maintenant il vit au Royaume-Uni. Et en fait, il s'est dit bah voilà, en Afrique, c'est pas possible que les gens peuvent acheter des ordinateurs, mais généralement pas des ordinateurs performants. Il faut faire quelque chose pour eux pour qu'ils puissent travailler, avoir les mêmes tartes que les occidentaux, que le nord-occidental. Et la seule solution, c'est d'utiliser Linux. Donc il a passé 2-3 ans à regarder toutes les distributions et à voir quel était le meilleur modèle pour fonctionner. Donc il a pris le modèle de Debian, qui à mon sens est un des plus vertueux et des plus logiques. Parce que si on va dans l'extrémisme de Gentoo ou dans les vieilles comme Arc ou choses comme ça, qui sont pas forcément accessibles, qui sont pas orientés pour les mêmes choses non plus. Et là, l'idée, c'était de faire une distribution qui soit très grand public, très accessible, très facile à installer. Je crois que pour une utilisation bureautique, Internet, MSN, il a réussi. Et je pense que le gros combat à partir de maintenant, c'est que dans le monde professionnel, donc il faut savoir que Linux, dans les studios, que ça soit chez Pixar, chez ILM, la boîte de Spielberg, donc tous les effets spéciaux américains, les films d'animation, depuis presque une dizaine d'années, avant étaient faits sur des stations Unix et maintenant sont faits sur des stations Linux. Par exemple, sous Spark, tout le montage, les graphismes sont faits à la base sur des Mac et ensuite après tout le rendu des dessins animés sont réalisés sur des stations Linux, etc. etc. Et il faut que ce monde-là du très professionnel, très haut de gamme, devienne un petit peu plus accessible. Par exemple, sur tous les effets spéciaux du film Le Dernier Samouraï, une énorme production de notre ami Tom Cruise, ont été faits avec CinePaint, qui est un logiciel basé sur GIMP et qui est gratuit. Voilà. Donc après c'est du temps, du savoir-faire évidemment, hein. On ne devient pas expert en effets spéciaux, quel que soit le logiciel, en 2 jours. Mais voilà, l'idée c'est de se dire que puisque les grands utilisent des logiciels qui tournent sur Linux, certains valent une fortune, mais par exemple pour faire l'animation 3D, il y a Blender, et il est gratuit. Et là où il tourne le mieux, c'est sous Linux. Il tourne aussi sur Windows et sur... voilà, donc je dirais le chemin que je préconise, c'est celui de Framasoft, si vous connaissez, ou framasoft.org ou .net. L'idée c'est de partir vers les logiciels libres pour à terme arriver vers Linux. L'idée c'est vous prenez n'importe quel système, Windows, Mac ou autre, vous essayez tous les logiciels libres, vous remplacez tous vos logiciels payants par des logiciels libres, et quand il reste plus que le système qui est payant, passez à Linux. Voilà, et vous retrouverez vos logiciels habituels.
Alors là, tu as dit certains trucs qui diront rien aux profanes, mais qui feront bondir certains Linuxiens à fond dans l'âme. C'est le milliardaire qui bosse avec, enfin qui a été invité chez Google. Google qui est quand même pas considéré comme un gentil par tout le monde.
Non, faut savoir que Google, tout le monde les considère comme pas gentils parce que oui, bon, leur modèle économique c'est la publicité et ils se gavent de nos informations personnelles pour gagner de l'argent. Au demeurant, ce sont, mais tout comme IBM, comme EDS, comme HP, comme Sun Microsystems, des énormes contributeurs. Mozilla Firefox n'existerait pas sans Sun Microsystems, Debian n'existerait pas sans IBM, pareil pour Red Hat, qui aujourd'hui vend ses produits, mais Debian reste communautaire et ça reste toujours un projet hautement subventionné. Ce sont des fondations qui n'existeraient pas sans les grandes entreprises américaines du logiciel. Hein ? On l'oublie souvent. Et Google en est un des plus gros contributeurs. Ça doit être quasiment le premier client d'Ubuntu, par exemple.
Et Quelle est la cohérence en fait derrière tout ça?
Moi je pense qu'à terme, on en reviendra à un modèle où on achètera du hard et où le soft sera développé pour faire fonctionner le hard. Mais comme c'était le cas historiquement, je veux dire, c'est le modèle économique d'Apple d'ailleurs. Pourquoi ils veulent pas qu'on vende macOS X sur d'autres systèmes? Parce que ce sont des vendeurs de matériel et de solutions, ce sont pas des vendeurs de logiciels. Voilà, et je pense que le modèle économique d'Apple, qui a été sauvé par Steve Jobs il y a 10 ans, en reprenant de la créativité, en ayant toujours 4 ans d'avance sur les PC, ce qui est le cas, etc., etc., c'est le modèle vertueux qu'il faut tenter de suivre dans tous les développements. Je pense que le logiciel libre, malheureusement, est très souvent développé surtout par des étudiants. Certains ont la chance de pouvoir continuer à y contribuer en étant payés par des entreprises comme Red Hat. C'est le cas de, par exemple, Lennart Pottering qui a fait le nouveau système son de Linux qui s'appelle Pulse Audio. Et donc, il était étudiant quand il a fait ça. C'était son projet professionnel. Il a révolutionné l'approche du son sous Linux, notamment sous Ubuntu et Red Hat. Et maintenant, il est embauché par Red Hat pour développer son truc directement. Il n'a même pas besoin, à la limite, il n'avait même pas besoin de finir ses études, quoi. Voilà. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui essayeront de vendre. Je dirais qu'il faut s'orienter vers de la solution et plus vers de la licence de logiciel. Ce dont les gens ont besoin, c'est de choses sur mesure, en tout cas pour les professionnels, et après de choses faciles à utiliser pour le grand public. Et ça, aujourd'hui, sous Linux, on y est encore un tout petit peu loin et c'est dommage.
Alors, une question, admettons, il y a quelqu'un qui fait de la musique, qui pirate Cubase sur son Windows, qui tous ces logiciels valent combien, plusieurs centaines d'euros pièces,
voire des milliers, voire des paquets de plugins, ouais.
Voilà. Problème de conscience ou par volonté, il veut passer sous Linux. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse?
Alors, il va galérer un tout petit peu avec les CVST, VSTi, sachant que c'est tout à fait possible de les faire tourner sur une distribution comme 64 Studio. Il y a un tutoriel très bien fait qui explique en 3-4 étapes comment on fait, pratiquement sans passer par le terminal. Ce qui est important pour les gens qui viennent de Windows ou Mac, c'est d'éviter le terminal au maximum, parce que souvent les développeurs oublient et les documentalistes oublient. Et donc, par exemple, moi, tu vois, je suis devenu en fait connu sur Internet et dans le libre parce que j'ai fait le premier tutoriel de Synaptique sans ligne de commande et qu'avec des images et un tout petit peu de texte. Donc, en fait, du coup, les gens qui voulaient installer des logiciels sous Ubuntu pouvaient le faire juste en suivant mon tutoriel et sans avoir à taper de ligne de code. Ce qui a été une révolution. Par exemple, j'ai été cité par Framasoft, diffusé un peu de partout. Et beaucoup de gens, après, ont repris le concept. Ils ont fait le livre de Thunderbird sur la même idée. Voilà, ce genre de choses-là. Je ne dis pas que c'est... Enfin, j'y suis pour rien. Au contraire, j'ai fait un truc. Depuis, je m'en occupe plus. C'est d'autres gens qui le mettent à jour. Donc, voilà. L'idée, c'est ça. C'est prendre un petit peu le temps de regarder... quels sont les trucs indispensables dont il pourra pas se passer, sachant qu'après des equalizers, des compresseurs, des machins, des trucs qu'il peut en retrouver. Sous Linux, il y a à mon avis deux des meilleurs instruments virtuels, à savoir Organd, qui a un très bon org vu son nom, etc. Et Zinatsu BFX, qui est probablement le meilleur synthé modulaire, je pense, pour en avoir discuté avec des gens qui sont vraiment des accros du synthé. Je pense à des artistes comme Saelin ou Crimosa. C'est un des meilleurs synthétiseurs modulaires du monde. Il manque un tout petit peu d'automation, ça lui vaudrait une version 2. Je pense que si j'arrive à motiver quelqu'un à la faire, voilà, j'irai botter le cul et je la ferai faire. Mais voilà, donc voilà, il y a ça. En équivalent de Cubase, qui permet à la fois de faire de l'audio, de la séquence MIDI, ce genre de truc là, il y a un logiciel qui s'appelle Rose Garden, qui est très bien fait. Pour les gens qui sont plus dans l'électro, la techno, il y a Muse, qui est un peu galère à configurer, mais par contre, une fois que vous l'avez configuré, sincèrement, c'est du bonheur en boîte, ça marche en live, ça marche en studio, ça marche en ce que vous voulez, énorme. Et puis donc après, en équivalent à des logiciels comme Logic ou Pro Tools, vous avez Ardour 2, qui, je dirais, est absolument fantastique au niveau de la sommation électronique, au niveau du son, de la dynamique, il n'y a pas d'équivalent. Alors pour donner un exemple, les consoles Harrison, qui servent à faire la post-production sonore des grands films du monde entier. Donc vous cherchez console Harrison sur Google, vous allez voir tout de suite les films qui ont été faits ces derniers temps avec. Elle tourne sous Linux, elle tourne avec Jack et elle tourne avec Ardour 2, mais sur une interface un peu particulière, donc ça s'adapte à une console de mixage. Mais à l'intérieur, voilà, c'est ça. Et donc il faut savoir que Harrison, depuis quelques mois ou quelques années, utilise comme base de travail 64 Studio, qui est une distribution. Vous faites 64studio.com, vous tombez dessus, vous téléchargez, vous installez. Donc en fait, en termes de qualité de son, je dirais que ça sera 30 000 fois mieux qu'un Cubase et mieux qu'un Pro Tools. C'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels qui l'utilisent. Après, La problématique, c'est qu'il faut réapprendre. Et la question, c'est est-ce qu'on a le courage de changer ses habitudes, de réapprendre les raccourcis clavier, de découvrir des nouveaux plugins parce que ceux qu'on a l'habitude ne tournent pas. Et après, pour tous les paquets de plugins VST, VSTi qui valent de l'argent, je parlais de 64 studios, eux, ils ont la politique, comme c'est une entreprise désormais qui fait des distributions pour des stations, pour des trucs embarqués, etc., mais orientés production multimédia, ils ont la possibilité de faire tourner les VST. Il y a juste un paquet à installer, ça fonctionne. Voilà, donc en fait, il faut savoir que c'est très facile à installer. Alors Ubuntu est de loin la plus facile à installer. 64 Studio, si vous avez du matériel trop récent, ça peut être un peu compliqué, mais ça se fait. Si vous avez du matériel qui a plus de 6 mois, il n'y a aucun problème. Voilà. Et enfin, donc, il vous restera à découvrir un petit peu l'interface qui est entre Mac et Windows, une barre en haut, une barre en bas, ou un peu comme vous voulez. C'est très hautement customisable. Un peu déroutant peut-être au premier abord sur 64 Studio parce que c'est très fade au niveau des couleurs. Mais par contre, c'est orienté fonctionnel, c'est orienté rapidité, c'est orienté légèreté. Vous lancez votre machine, 20 secondes plus tard, vous êtes en train de travailler, quoi. Voilà. Ça, c'est Debian, enfin Ubuntu Studio et 64 Studio. Donc en fait ça se fait, changer pour passer sous Linux ça se fait, ça demande de changer un petit peu ses habitudes. Après, si vous me demandez un équivalent Fruity Loops, je vous dirais qu'en ce moment pour l'instant il y a Wire mais qu'il n'est pas encore au même point, ça reste de la bidouille. Donc c'est le gros manque.
Voilà. LMMS.
Ouais, mais voilà.
Ouais, je vends LMMS, je trouve ça fantastique, c'est génial.
Voilà.
Et les mecs sont sympas, t'as un problème, tu vas sur le chat IRC, ils te répondent.
Donc voilà, c'est ce que j'allais dire. L'autre grand truc qui est super génial, si vous parlez un tant soit peu l'anglais, et généralement on peut toujours trouver quelqu'un qui parle n'importe quelle autre langue, l'espagnol, français, ce que vous voulez. Vous allez sur les channels IRC des logiciels concernés, généralement ils sont tous sur Freenode, et donc sur l'IRC de Freenode. Et à partir de là, vous posez vos questions, il faut parfois être un petit peu patient, attendre un quart d'heure, 20 minutes que quelqu'un pointe son nez. Et généralement, tout le monde est là pour vous aider, vous indiquer la bonne doc ou la manip ou la petite astuce. Il y a une réelle communauté, en fait, il y a plein de forums où vous pouvez trouver toutes les réponses à vos questions. En fait, il faut un petit peu de temps et ce que je reviens, c'est pas avoir peur de changer ses habitudes de travail. Et vous découvrirez qu'en fait, avec le même matériel, la dynamique du son, pour ceux qui utilisent le serveur audio de Jack, avec Ardour, avec Zine, tout ça, voilà, c'est fantastique. Le son, il est c'est énorme, tout simplement. Les mêmes samples, les mêmes trucs, mais voilà, repasser dans une machine Linux, on redécouvre son matériel. Et ça, rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'y mettre non pas un œil, mais une oreille. Et de se motiver. Par exemple, j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire les plugins sous Ardour, ils sont ultra moches, c'est pas visuel, il y a des faders, on sait pas trop ce qu'on fait. Je dis non, écoute de la musique, on est là pour l'écouter. J'en ai parlé à des grands de l'audio, des gens qui donnent des cours à l'ENM, etc., qui ont vu le côté un peu soviétique de l'interface d'Ardour et tout ça, mais qui ont dit c'est pas l'intérêt, nous, voilà, on fait du son. Logique, c'est rigolo, c'est tout animé, machin, c'est coloré, mais tu passes sur Ardour, il n'y a que l'essentiel. Mais par contre, voilà, putain, ça sonne, ça déboîte mémé. T'as un equalizer, bah voilà, il équalise et il est musical. Et bon, t'as peut-être pas un graphique qui t'indique ce que t'as équalisé, mais tu entends le résultat. Voilà.
C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Max et de Pure Data.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pareil, c'est le.
Vous avez pas entendu ça.
Oui, on en parlait avant
l'interview.
Avant l'interview. Mais ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, Max, c'est un logiciel qui est encore propriétaire et qui est qui a quand même beaucoup de marques visuelles, beaucoup d'aides contextuelles, etc., qui facilite grandement son utilisation, alors que Pure Data, c'est vraiment un logiciel où l'interface, c'est une feuille blanche en fait. Et on se retrouve carrément mais largué de chez largué sur le machin. L'interface est pas du tout accessible ni rien. Mais par contre, les possibilités sont démultipliées au possible et la qualité aussi est là.
La qualité du son. On en revient toujours à ce fameux serveur son dont je parlais qui s'appelle Jack. Voilà, Jack, tout est dit dans le nom. Mais qui fait justement le cœur des plus grosses stations audio numériques actuelles. Qui est renommé comme étant le meilleur moteur de sommation digitale actuellement sur le marché. Et il est gratuit et libre. Alors je précise pour ceux qui ont un Mac que Jack et Ardour 2 fonctionnent sous Mac OS X sans aucun problème. Vous pouvez les télécharger en je sais plus si c'est des Universal Binaries ou un truc comme ça. Vous pouvez les installer et ça tourne en 2.2, donc il n'y a pas de souci. Et après, pour ceux qui ont un peu plus de courage, donc, la version distribuée gratuitement sous Mac ne gère pas les VST et vous pouvez recompiler sans aucun problème pour faire tourner les VST. Voilà. D'autres questions, j'espère ne pas avoir été trop soporifique, pas trop technique non plus. suis désolé encore une fois,
il
est tard.
Il y a des gens qui vont rien comprendre
vont
à plein de
ces
sigles.
Un peu technique.
Mais c'est radiage, je sais pas comment on s'en démarrera.
Mais c'est pas grave.
Non, mais il y a des choses essentielles. C'est que Linux, faut changer les habitudes. C'est un peu plus moche, mais encore, quand on essaye par exemple avec deux bureaux, ça c'est un truc que personne d'autre connaît.
Voilà, ça c'est fantastique.
Donc, vous pouvez sa table de mixage sur un bureau, on met son séquenceur sur un autre, pouf, en une touche, on passe de la table de mixage.
Voilà, en fait, on peut répartir les applications par groupe sur l'écran et faire un écran, c'est toujours avec un seul écran physique. On peut réaliser en fait plusieurs écrans, on va dire virtuels, dans lesquels on regroupe les applications par thème ou autre, et on peut glisser d'une à l'autre juste avec un raccourci clavier ou en cliquant avec la souris, ce qui permet de passer, par exemple pour du live, c'est absolument fantastique. On n'est pas comme sous Windows ou Mac en train de chercher l'application sur laquelle on veut changer un truc, c'est instinctif.
Et puis on n'a pas besoin de deux écrans pour avoir le même résultat sur toi.
Exactement, ou 4 ou 8, voilà, on peut mettre autant de gros virtuels qu'on veut.
Animé en 3D avec des effets de flammes.
Alors, pour vous donner une idée, pareil pour ceux qui connaissent Mac, les derniers effets de Léopard, ceux qui animent le bureau avec la souris, qui répartissent les applications, etc., ne sont pas du tout une invention d'Apple, mais ont été inventés il y a déjà 2-3 ans sous Linux. Notamment, on peut le retrouver avec Ubuntu dans le projet Compiz. Et donc, en fait, bah voilà, ça c'est-à-dire que jusqu'à il y a 10 ans, les innovations qu'on trouvait sous Windows venaient de Mac, et maintenant les innovations de Mac viennent de Linux. Voilà, donc si vous cherchez le système innovant aujourd'hui, c'est plus Mac, c'est Linux. Donc je précise juste que vous pouvez me trouver facilement sur internet, c'est ce que je disais, et je prends toujours le temps quand je l'ai. Alors des fois il me faut une semaine pour vous répondre, mais si vous me contactez, n'hésitez pas, je prendrai le temps de vous répondre, de répondre à vos incertitudes. Si vous voulez me pointer un forum pour que la discussion puisse être disponible pour d'autres personnes, c'est avec plaisir. Et donc bah, voilà, vous pouvez me trouver sur Audiofanzine, sur un peu partout.
Ça marche, super.
Voilà.
Enfer.